voir le thème qui a été retenu pour ce temps de l'Église persécutée cette année, titré « À contre-courant ». Justement, parce que ces personnes qui persévèrent dans leur foi, envers et contre toute difficulté, le vivent quelque part à contre-courant de ce qu'on veut leur faire croire, de ce qu'on veut leur faire adhérer. Mais en ce sens, bien plus pour nous, tous chrétiens, dans le monde occidental où la persécution semble inexister, ou en tout cas, j'ai envie de dire, n'est pas la même, eh bien là aussi, justement, nous sommes à contre-courant. Et c'est tout le cœur du message de ce matin. Non seulement l'Église persécutée, ceux qui forment l'Église persécutée sont à contre-courant, mais ce que vient de faire Kevin, c'est totalement à contre-courant. Et ce que nous sommes, en tant que chrétiens, c'est totalement à contre-courant. Comme j'ai dit tout à l'heure, le baptême témoigne de son identité, de sa nouvelle identité que Dieu lui a donnée lorsqu'il a placé sa foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Une démonstration extérieure de ce qui se passe déjà à l'intérieur de lui. Votre foi est une déclaration de votre nouvelle identité. Lorsque face à l'amour que Dieu me donne en Jésus-Christ, et vous répandez, vous vous repentez, vous replacez votre confiance en lui, vous recevez ce qu'on appelle un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Alors que vous étiez ennemis de Dieu, séparés de Dieu, vous êtes grâce à l'œuvre de Jésus, réconciliés avec Dieu, sauvés par la grâce seule de Jésus au moyen de la foi. Nous l'avons lu dans Éphésiens 2 tout à l'heure au début de ce culte. Et cette possibilité de communion avec Dieu va amener un changement intérieur. Dans cette nouvelle identité, nous allons développer un nouveau caractère, des nouveaux comportements en découleront, etc., etc. Il y a quelque chose qui change, pas qu'un peu. Peut-être que pour ceux qui étaient justement la semaine dernière au week-end de Portes Ouvertes, les témoignages de ces personnes qui luttent contre la société, contre les rebelles par rapport à leur foi, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et tous les chrétiens depuis plus de 2000 ans qui ont persévéré jusqu'à mourir, notamment les apôtres et les premiers disciples, pour leur foi, c'est parce qu'ils étaient convaincus que Jésus était ressuscité. Et ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ce n'est pas notre cas. Mais nous voulons croire que s'ils ont fait cela jusqu'au bout, c'est parce qu'il y avait une réalité en ce sens. Alors première chose, pour être à contre-courant, tu as besoin d'être au courant. Il y a deux manières de penser. Il y a celle de penser des hommes, des êtres humains, et il y a la manière de penser de Dieu. Et en fait, lorsqu'on regarde à Dieu, lorsqu'on regarde aux paroles de Jésus dans la Bible, Jésus est clairement à contre-courant. Jésus est radical. Son message est radical. Le chrétien n'est pas un extrémiste en ce sens, mais il laisse place à Jésus qui prend profondément, toujours plus, en lui, une priorité. Et il le laisse transformer dans toutes les sphères de sa vie. Et je crois que le plus grand mensonge de notre époque, et peut-être qu'il existait déjà avant, mais en tout cas, c'est ce que je remarque autour de moi, c'est qu'on croit qu'il est possible d'être chrétien sans être pratiquant. On ne peut pas être un chrétien qui suit modérément. Ce n'est pas moi qui l'invente. Jésus est radical parce que son message est à contre-courant. Regardons justement à ce que ce sermon sur la montagne, que beaucoup connaissent, même de manière populaire, Jésus va nous enseigner. Matthieu 5, versets 1 à 16. « Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Bienvenue à l'Église. Quand je lis ça, moi, il y a du boulot là. Il y a du travail à faire. Bien plus, imaginez dans le contexte de l'époque, Jésus, pour faire son sermon, son enseignement, monte sur la montagne et s'assoit. Quelle arrogance! Il est en train de reproduire aux yeux du peuple d'Israël ce que Moïse a fait plus loin dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Il monte sur la montagne pour recevoir la révélation des 10 commandements de Dieu, de comment il faut se comporter si on fait partie du peuple de Dieu. Et Jésus est donc déjà à contre-courant avant même d'avoir ouvert la bouche. Bien plus, il va apporter une nouvelle loi que celle, ou en tout cas il va la surenchérir, il ne va pas la changer. Imaginez-vous être présent à ce moment-là, franchement, connaissant ce que Moïse a fait. Je suis persuadé que beaucoup d'entre nous, on l'aurait certainement critiqué avec ses premiers gestes, ses premières paroles. Bon, Jésus, c'est sympa, t'es un prophète, tu fais des miracles, tu fais des choses extraordinaires, mais n'exagère quand même pas Moïse, quoi. Moïse, c'est pas n'importe qui, hein, les tablettes. En plus, il les a cassées à un moment, et Dieu lui a même fait la grâce de lui en redonner deux autres. Non, tu ne peux pas faire ça. Bien plus, ce message du sermon sur la montagne fait vraiment l'ensemble de tout ce qu'on pourrait aujourd'hui populairement connaître lorsque Jésus dit « Si un te met une baffe dans la joue droite, tends la joue gauche. » On m'a déjà dit « Coupe, et toi pasteur, si je te mets un coup sur la joue droite, tu tends la joue gauche ?» Je dis « Essaye un peu. » Ou alors, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Tout ça, ça vient du sermon sur la montagne. C'est quand même extraordinaire. Et Jésus, je crois même que si on avait des accusations en ce sens, il pourrait très bien dire « Mais tu trouves que je suis excessif ? Franchement ? Que je fais genre comme Moïse qui monte sur la montagne ?» Eh bien, c'est moi qui l'ai créé, cette montagne. La parole de Dieu est à contre-courant? Eh bien, je te le dis que c'est moi-même qui ai cette parole devenue chair. Je suis la femme l'oméga. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis la lumière du monde. Je ne fais que citer la Bible, hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Si tu as encore des doutes avec le fait que Jésus soit à contre-courant, dites-le-moi. Je peux en rajouter encore. Jésus dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité, la vie, que personne ne peut aller vers Dieu si ce n'est que par lui. Il est le sauveur du monde. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Imaginez tout ça. Oui, Jésus est radical. Jésus est clairement à contre-courant et encore plus aujourd'hui. Ou moins ou plus, peu importe, il l'est encore. Et vous savez pourquoi Jésus l'est ? Parce qu'il y a une autre bonne raison, au-delà qu'il est Dieu, bien sûr, et qu'il n'a pas besoin de nous pour exister, il n'a pas besoin de cette terre pour exister, il est ce qu'il est de toute éternité. Donc il le sera, il n'a pas besoin de nous. Mais il nous a choisis, il a librement décidé de nous créer par amour. Ça, c'est extraordinaire. Et nous le voyons à ce que Jésus a apporté et a subi jusqu'au bout. Mais il y a une deuxième bonne raison qui a que Jésus soit radical, c'est que le diable, lui aussi, est radical. Il est un voleur, la Bible nous dit, un tueur, il n'est pas modéré dans ce monde. Il y a de quoi être surpris à cette affirmation, mais regardons autour de nous, franchement. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un monde épanoui et heureux ? Est-ce que vous avez l'impression que les êtres humains s'aiment encore plus aujourd'hui parce qu'on est bien plus doués dans la médecine et dans la science ? Pas plus, pas moins. Il me semble avoir lu que la persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde, si on peut aller là, ça couvre bien plus de morts que ce qu'on a pu vivre dans les siècles précédents. Jésus est radical, son message est radical, le diable est radical, son message est radical, et vous savez pourquoi ? Parce qu'au milieu de tout ça, il y a notre péché qui est radical. Notre péché qui est radical. On peut faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas à éradiquer le péché. Paul, l'apôtre, affirme « Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Ce qui est un contre-courant dans la manière de penser de tous ceux qui pensent être de bonnes personnes, c'est qu'il y a en moi, en vous, en chacun de nous, en toute personne humaine, quelque chose de pourri, quelque chose de profond dans notre être, à la racine qui nous contamine dans tous les domaines de notre existence. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Et franchement, ça, c'est être à contre-courant aussi, hein. Parce que la société nous amène aussi à dire « Soyez mieux avec les autres, aimez les autres, servez-les, etc. » Très bonne chose, très bonne valeur morale. Mais qu'on soit croyant ou non, il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Et c'est pourquoi Jésus est à contre-courant, parce qu'il aime tellement qu'il n'a pas le choix d'être à contre-courant, et parce qu'aussi il est saint, le Dieu saint, sans aucune poussière, aucun iota de ce péché-là. Et donc quand on aime, qu'est-ce qu'on fait ? On veut forcément avoir un contact, avoir une relation avec l'être aimé. Et c'est là le deuxième point, c'est la nécessité d'être branché au courant, si tu veux être contre-courant. Ça sous-entend deux points. La première, c'est la nécessité d'avoir Jésus dans ma vie, de l'avoir un jour au moins accepté, ou de reconnaître qu'effectivement, je ne peux pas. Et puis le deuxième, on le verra, c'est l'importance d'appartenir à une église. Se brancher au courant, savoir qu'il faut être connecté à Jésus, c'est saisir notre besoin de grâce. Plus nous sommes conscients de notre péché et de notre séparation d'avec Dieu, mieux nous comprendrons la grâce de Dieu. En fait, je vous avoue que plus j'avance dans ma foi, vous savez, on appelle ça la conversion, le changement de vie un peu. Moi, j'ai été très tardif, hein. On pourrait dire à partir de 23 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Et ça peut vous paraître bizarre, hein, mais certains pasteurs sont nés dans la marmite, comme on dit. Moi, je pense que c'était à l'âge de 30, 33 ans, et j'en ai 40, où j'ai commencé à vraiment rentrer dans ma vocation. Donc, ça fait pas longtemps. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, d'un point de vue des textes, etc. Et plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai aussi beaucoup besoin d'apprendre dans ma vie. Mais en fait, plus je reconnais que j'ai besoin d'apprendre, plus je me rends compte à quel point Dieu est extraordinaire. Parce que je n'ai rien d'aimable, en fait. Si je vous disais tout ce qui était au sombre au fond de moi, je pense que vous quitteriez cette pièce. Sincèrement. Sincèrement. Et quand j'écris ce genre de message, je vous avoue que ça me... Waouh ! Sur le coup. Mais en même temps, je dis, punaise, Seigneur, j'ai besoin de toi et tu m'utilises. Tu m'aimes, moi ? Alors parce que tu m'aimes, j'ai envie de te servir. Hein ? Parce que tu m'aimes le premier, j'ai envie de t'aimer. Et j'ai envie de faire de mon mieux, pas pour devenir quelqu'un, mais parce qu'à tes yeux, je suis quelqu'un. Et c'est ça qui est triste, c'est que même dans le milieu de chrétiens, peut-être on va minimiser le péché. Peut-être on va se dire, ah c'est pas grave. Et puis, parce que forcément, il y a des regrets, il y a de la culpabilité, on peut faire plein de choses. Et puis, faire du mal à l'autre, c'est sûr, c'est triste, hein, parce qu'on se rencontre après coup. Il y a un verset que je garderai toute ma vie, qu'un jour on m'a donné par texto, et ce qui m'a fait justement me mettre à genoux devant Dieu, c'est Paul qui dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Et là je me suis dit « Mais waouh, c'est moi quoi. » En fait, j'ai toujours voulu être un mec sympa, j'ai toujours voulu bien faire. Et puis d'autres disent de moi, chrétien ou pas, « Mais c'est vrai que tu avais un bon fond. Ouais. » Ben, regarde bien plus au fond, parce qu'en dessous du fond, il y a encore un fond, quoi, que même moi je ne connais pas. On essaye de se justifier par des excuses, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, je me suis comporté comme mon père ou ma mère le faisait, c'est mon caractère, j'y peux rien, ou encore je n'aurais jamais fait ceci si toi tu n'avais pas commencé à faire cela. Hein? Mari et femme dans le couple peut-être. C'est dur de ne pas dire tu toujours, hein, et de dire d'abord je. Mais tu as fait ça. Ça c'est aussi un de mes combats. Merci Seigneur pour ta grâce. On cherche à minimiser le mal, le péché que nous avons commis, contre Dieu, premièrement. Et voilà, et dans le psaume 51, qui est un psaume extraordinaire, une prière extraordinaire de Dieu qui montre la repentance sincère d'un cœur sincère et authentique devant Dieu, voilà ce que David dit. « J'ai péché contre toi, » il parle à Dieu, hein, « j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Même s'il y avait de quoi avoir des reproches, même s'il y avait de quoi nous taper sur la tête, c'est Christ qui l'a pris pour nous et Jésus ne reproche pas. Être branché au Saint-Esprit qui est en nous, c'est ça le chrétien. C'est avoir conscience que le salaire du péché, c'est la mort. C'est celui qui, après le culte de ce matin, quand il va rentrer chez lui, alors qu'il a loué le Seigneur, il a peut-être crié de tout son cœur « Alléluia !» et maintenant c'est bon, j'y vais. Ce soir, va se lamenter et pleurer à nouveau sur sa pauvre situation. Parce qu'en fait, il se rend compte que sa chair est faible. Il sait à quel point, sans la grâce de Dieu, il va rester ennemi de Dieu. Il ne fait pas bien le bien qu'il veut. Il s'est misérable. C'est pour ça que je vous dis, maintenant, on rentre tout doucement dans la grâce. C'est d'abord la vérité, et ensuite, c'est la grâce. Alors oui, on ne sera jamais parfait, sauf en face de Dieu. Mais parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, lui nous éclaire toutes ces zones d'ombre petit à petit et nous rappelle, nous re-questionne que nous avons besoin d'un sauveur dans notre vie, que nous avons besoin de lumière, besoin de nous arrêter, de dire « Ok, j'arrête, même si ce sont des bonnes choses, j'arrête juste de compter sur mes propres forces et Seigneur, j'y vais avec toi parce que tu es là en fait, patiemment tu attends que je te le demande. Tu ne m'obliges pas, tu me laisses dans ton amour cette liberté. » Dans ce même psaume, le verset 19 rajoute « Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et humilié. » Dans le livre des Actes, versets 19 et 20 du chapitre 3, nous lisons « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Une des premières questions que je vous laisse, c'est « Est-ce que vous avez envie d'être rafraîchi ou est-ce que vous avez envie de continuer à essayer de vous dépatouiller dans votre boue tout seul ?» Là encore une fois, c'est juste une question que je vous laisse. Vous êtes libre devant moi, devant Dieu, devant qui que vous voulez. Et c'est là que l'Église prend tout son sens. L'Église est là pour nous aider parce que dans nos relations ensemble, humaines, nous pouvons nous encourager, comme nous sommes encouragés à le faire. Ça ne marche pas toujours, mais voilà à quoi nous sommes appelés. Et nous pouvons nous reprendre aussi, nous corriger si c'est nécessaire. Ça, c'est plus difficile, mais ça fait quand même partie. Et ce que je trouve extraordinaire en ce moment, on a démarré ce jeudi dernier dans la formation de disciples, la réalité de l'Église. Et j'ai bien plus encore découvert cette réalité extraordinaire qu'elle est au cœur du plan de Jésus. Et j'aimerais vous laisser ce passage dans Éphésiens 3, versets 10 à 11, qui dit « Ainsi maintenant, grâce à l'Église, les anges et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous imaginez ? Autant elle est imparfaite, dans ce que nous sommes imparfaits, et puis il n'y a pas d'église parfaite, au moment où il y a un homme qui rentre ou une femme qui rentre, c'est fini. D'accord ? Mais Jésus la voit comme parfaite, on appelle l'Église son épouse, celle dont il te prend soin, celle dont il va se sacrifier pour elle. Mais en plus, dans son plan, on enseigne notre vie là, aujourd'hui dans l'église locale, dans toutes les églises du monde, elle va enseigner les anges, les autorités célestes, etc., etc. Moi, franchement, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais non seulement je suis reconnaissant de l'amour de Dieu, mais en plus, parce qu'il a beaucoup d'humour et qu'il investit beaucoup en nous, eh bien, il se sert de nous pour enseigner ceux qui sont dans les lieux célestes. Paul rajoutera, unis au Christ et par sa foi, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Et c'est là, cette réalité, que le christianisme est à contre-courant. Je vous donne un exemple, à la cantine, dans une école, peut-être on pourrait même dire une école chrétienne, si on veut pousser un peu le bouchon un peu loin, une responsable assez sévère a posé cet avertissement écrit en rouge à côté du panier de pommes. Seulement une pomme par personne. Dieu vous regarde. Pas mal, hein ? Mais bon, on le sait, mais quand on le lit, c'est autre chose. Dieu vous regarde. À quelques mètres de là, juste à côté d'une pile de biscuits de chocolat, un petit garçon souffle à l'oreille d'un autre. Prends-en autant que tu veux. Dieu surveille les pommes pour le moment. Est-ce que, honnêtement, est-ce qu'on n'est pas des fois un peu comme ça ? On essaye de de trouver un raccourci, c'est toujours des bonnes choses, hein ? Encore un petit morceau, un petit pour la route, ou je sais pas ce qu'on peut y dire, mais ce sont des bonnes choses. Hein, on va trouver des petites excuses pour faire comme bon nous semble, et là encore, on a la liberté de le faire, bien sûr. Mais le véritable problème, ce n'est pas de tenir un jour à jour une liste de ce que le chrétien peut faire ou ne pas faire. Ce qui compte, c'est de savoir quelles sont ma motivation intérieure et quel but je me fixe dans la vie pour les faire. Si mon but est de connaître Jésus et de rechercher premièrement son royaume, alors je ne vais pas essayer, bien évidemment, d'aller jusqu'à une certaine limite. Et si on faisait un sondage, on a tous des limites un peu différentes selon notre contexte et notre histoire, bien sûr. Mais Dieu nous appelle à être à contre-courant de la culture parce qu'elle nous amène à la banqueroute. Pensons au cerf-volant. Pour le faire grimper, pour le faire monter, il faut le diriger contre le sens du vent. Si on va dans le sens du vent, ça ne marche pas. Ictus, c'est le mot grec pour dire le chrétien à l'époque, hein, le signe du poisson. Les poissons, ils nagent à contre-courant parce qu'ils sont vivants. Les seuls poissons qui nagent dans le même sens du courant, c'est les poissons morts. Donc, nous avons besoin, malgré ce qu'on peut penser, peut-être malgré nos inquiétudes, nous avons besoin, et Dieu nous y amène, à aller dans un sens inverse de ce que la culture d'aujourd'hui et même de l'époque nous propose. Cela ne signifie pas, bien évidemment, qu'on va s'isoler et qu'on va nous enfermer dans un monde de vie mielleux. Je l'ai dit tout à l'heure, et on le voit à l'image de ces personnes persécutées dans le monde, il n'y a rien de mielleux dans tout ça. Mais, ce monde a besoin de chrétiens qui, envers et contre tout, continuent de croire qu'il y a autre chose, qu'il y a un Seigneur et un Sauveur, qu'il y a un Dieu créateur qui aime et qui est souverain et qui accomplira toute chose à sa bonne fin. Et c'est là la fin de ce sermon où Jésus dira « Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison de la même façon. Votre lumière doit briller devant tout le monde. » Alors les autres verront le bien que vous faites, ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas pour flatter votre petit ego, mais c'est pour voir la gloire de Dieu qu'on chante dans les cieux. Alors vous avez beau aussi là faire tous vos efforts si vous êtes croyant, pour essayer de ne pas être à contre-courant, parce que c'est vrai que des fois on a des regrets, on se dit mince, qu'est-ce que ça va me coûter très cher dans certaines situations. Mais en fait, vous n'avez pas besoin, en fait, puisque Dieu l'est déjà, et Dieu est avec vous, et Dieu vous amène à la perfection de votre foi, donc vous y êtes déjà, en fait. Peu importe ce que vous voulez faire ou pas. À mesure que vous y mettrez, ça c'est une autre question. Mais il y a cette réalité-là. Aujourd'hui, la question de tolérance, hein, la définition de tolérance, on a besoin de tout expliquer, tout redéfinir, c'était respecter quelqu'un qui n'avait pas la même opinion que soi. Mais aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes quelqu'un de tolérant, ça veut dire que vous acceptez tout. Essayez de dire à quelqu'un que selon la compréhension de votre foi, vous n'avez pas la même conception sur le rapport à la sexualité dans le monde et ce que la société veut défendre. Vous serez traité d'intolérant bien plus. Dites encore que sur l'idée d'avoir un bébé à tout prix, avoir des bébés c'est bien, mais en avoir à tout prix, vous ne partagez peut-être pas cette idée-là, dites-le aussi. Alors vous serez encore des intolérants. Peut-être que vous avez pris connaissance que, en ce moment, il y a des auditions dans ce qu'on appelle les thérapies de conversion à l'Assemblée nationale suite à une infiltration. Donc, vous voyez, comme un peu les pharisiens qui voulaient piéger Jésus, un homme journaliste est entré dans ce qu'on appelle, dans l'Église catholique, il y a une association qui s'appelle Courage, et dans l'Église protestante évangélique, il y a cette association que nous connaissons ici, Torrent de Vie, qui aide des personnes qui sont blessées intimement dans leur identité sexuelle, telle qu'elle soit. Et puis, il y a un homme qui s'est infiltré pendant un an dans cette situation pour chercher la petite bête, voire la grande bête. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Dieu est amour ». Et du coup, vous voyez bien le topo. Et j'ai regardé, vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez « Vidéo de l'Assemblée nationale », il y a toutes les auditions qui sont possibles. Et je me suis mis à la place de ces personnes-là. Et il y a aussi le pasteur Gilles Boucaumont qui a été aussi interrogé, que je connais, qui est de l'église Paris-Belleville, il est de l'église du Marais maintenant à Paris. Et chaque mot biblique, il a dû les redéfinir dans le contexte biblique. Parce que bien évidemment, quand on parle de malédiction, de guérison, de sauveur, dans le monde non chrétien, c'est pas possible. Donc là aussi, nous, Nous essayons aussi, même le dimanche matin, de reformuler, de reprendre un mot pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on le comprenne mal. Mais c'est tout un défi aujourd'hui d'être à contre-courant. Et ça demande du courage, parce que bien souvent, je me suis dit, punaise, quel calme en face de quelqu'un qui a l'impression de vous tendre un piège à chaque fois, et qui en rajoute, dit, ah oui, mais vous parlez dans votre livre, ou dans votre truc, votre article, que Dieu guérit. Alors, si il guérit, ça veut dire que c'est une maladie, et vous avez dit que c'était pas une maladie. Enfin, wow. Il dit, oui, mais vous savez, dans la guérison, chaque mot, chaque origine grecque, etc., etc. Pourtant, Jésus, lui, était l'homme le plus aimant, le plus accueillant au monde, mais aussi le plus radical. Jésus dit qu'il y a certains points de vue, certaines manières de penser qui n'amènent pas la vie, mais la mort et la perdition. Jésus ne nous offre pas le bonheur, et ça, je le dis peut-être pour d'autres églises qui un jour entendront ce message, Jésus ne dit pas que nous serons riches, bien que si vous êtes riche, vous pouvez le mettre à la service de Dieu. Mais si vous venez ici, je ne suis pas sûr que vous soyez, que le message de Jésus, c'est d'être riche, ni d'avoir la santé, comme d'autres, mais il vous offre la vie. Alors je sais que ce n'est pas toujours dans notre quotidien, ce n'est pas toujours dans le moule, dans le courant, mais c'est à contre-courant. Et c'est là qu'il s'agit d'une décision. Pas pour dire ensuite que la foi, c'est quelque chose qui reste dans l'intime, non. Mais c'est de décider et d'assumer, selon mon rite, bien évidemment, avec l'aide de Dieu. Si je prends cette petite lampe de poche, je vous laisse cette image pour la fin. Voilà, bon, elle est petite, mais elle brille un peu quand même, vous la voyez là. Qu'est-ce qu'elle me permet de faire ? Dans une pièce sombre, je vais pouvoir déambuler. On l'a fait avec les jeunes hier au Kids Club. On leur a caché des bonbons. Et j'ai mis la pièce toute noire et je leur ai dit, allez les chercher. Ils ont dit, mais on voit rien et tout. Tiens, j'ai la solution, petite lampe. Et puis ils ont pris des lampes et puis ils se sont pris un super plaisir de chercher leurs bonbons. Elle nous permet d'éclairer. Et à l'image de Dieu, Jésus, la lumière du monde, vient éclairer ma vie, vient éclairer le chemin qu'il trace d'avance pour moi. Mais pour éclairer, qu'est-ce qu'il lui faut à cette lampe ? Alors c'est encore un modèle un peu archaïque, hein. C'est pas une batterie Bluetooth ou USB, ce sont des petites piles. Hein. Donc il faut une batterie, une pile. Le chrétien, il a le Saint-Esprit en nous. Il a une réalité nécessaire pour nous alimenter à l'image de la parole de Dieu. Si la batterie est vide, hein, si je la laisse allumer, là, parce qu'il faut qu'elle brille quand même, parce que si elle brille plus, je vois rien. Eh bien, si je ne change pas les piles ou si je ne recharge pas la batterie, qu'est-ce qui va se passer ? Elle n'aura aucune chance de fonctionner. D'accord ? La différence avec Dieu, c'est que quand Dieu vient pleinement en nous, il ne part plus. Il reste pleinement en nous. Mais, la troisième chose, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Ouais, le bouton. Et le bouton, c'est qui l'allume ? C'est moi, c'est vous, c'est nous. Donc Jésus se dit la lumière du monde. La parole de Dieu nous dit que si nous croyons et nous plaçons notre confiance en lui, nous le faisons comme Seigneur et Sauveur, son esprit vient en nous. Des réalités bibliques. Est-ce que vous voulez appuyer sur le bouton ? Ou est-ce que vous ne voulez pas appuyer sur le bouton ? Et si vous êtes chrétien, est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas beaucoup appuyé sur le bouton ? Eh bien, vous avez encore l'occasion de réappuyer sur le bouton. Et encore et encore. Et puis quand des fois on en a marre et qu'on malheureusement notre péché l'éteint, eh bien, Dieu nous donne encore dans sa grâce. Parce que Romains 8, 1 nous dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ ».